Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Si vous aimez ce podcast, si vous voulez l'aider à rester un projet viable pour moi, il y a deux choses que vous pouvez faire. D'abord, vous pouvez devenir un supporter de l'émission sur Patreon. Patreon est une plateforme qui vous permet de soutenir directement le podcast parce que vous reconnaissez la valeur de mon travail. Il suffit d'aller sur leur site, Patreon, patreon.com. Vous cherchez un dernier disque avant la fin du monde ou vous cherchez Captain Dilligaf. Vous vous inscrivez pour donner quelques euros chaque mois. Voyez cela comme un abonnement volontaire. Un abonnement que vous n'êtes certainement pas obligé de payer, mais que vous choisissez de payer parce que vous aimez le podcast. Et parce que vous n'aurez pas besoin de ces quelques euros avant la fin du mois. Si seulement un petit pourcentage des auditeurs donnait le prix d'une tasse de café chaque mois, cela ferait une immense différence pour moi. Merci donc à tous ceux qui ont pris sur leur temps et sur leur capital pour soutenir le podcast de cette façon. Cela signifie beaucoup. Mais il y a aussi deux façons entièrement gratuites de le faire. D'abord, vous pouvez laisser une note sur la plateforme que vous utilisez pour écouter les podcasts, ou vous pouvez simplement parler du podcast à un ami, faire passer le mot. Comprenez bien que ces deux choses m'aideront beaucoup plus qu'elles ne seront une corvée pour vous. Ok, j'arrête le harcèlement ici. Aujourd'hui, nous allons parler du disque qui, plus que tout autre, a assuré la place de Phil Spector dans l'histoire de la musique populaire. Un disque qui a changé la vie de plusieurs personnes qui l'ont écouté pour le meilleur et qui a changé la vie de sa chanteuse pour le pire. Et qui possède l'intro de batterie la plus imitée de tous les temps. Nous allons nous pencher sur un chef-d'œuvre intemporel, sur une intro de batterie reconnaissable entre mille. Be My Babe, des Ronettes.
Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Mené par le Captain Dilligaf, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le Captain Dilligaf n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que « Danny Briand l'est-il vraiment ?»« Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell ?» Le blues a-t-il été inventé par les Blancs? Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées? Patti Smith aime-t-elle Morrissey? Et qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école? Bonne écoute.
Uno, dos, one, two, tres, quatro.
Avant de commencer, évidemment, deux ou trois choses doivent être dites. La première, c'est que cet épisode, par nécessité, va traiter de la violence conjugale. Comme toujours, je vais essayer d'aborder le sujet avec sensibilité et aussi brièvement que possible. Mais si vous craignez que cela vous perturbe, bah sautez l'épisode. J'imagine que très peu de gens seront contrariés par ce que je dis ici, mais c'est toujours possible. L'histoire des Ronettes commence avec Ronnie Bennett, une jeune fille métisse de Harlem, qui est obsédée par le son de Frankie Lyman and the Teenagers. Ronnie devient la plus grande fan des Teenagers et réussit même à organiser une rencontre entre elle et Lyman lorsqu'ils ont tous les deux 13 ans. mais ses illusions s'envolent lorsqu'il se présente ivre et lui fait des avances. Cela n'a pas empêché de faire de son mieux pour imiter la voix de Lehman et de former un groupe vocal avec plusieurs de ses amis et des membres de la famille. Ce groupe avait un chanteur masculin, mais lors de leurs premières apparitions à l'un des spectacles de talent du Harlem Apollo Theater, le chanteur a eu le trac et n'a pas pu commencer à chanter lorsqu'il est monté sur scène. Ronnie s'est alors avancé vers le micro, a pris le lead et la performance du groupe est assez bien passée, même avec le public notoirement hostile de l'Apollo, pour que le petit groupe décide de commencer à se produire régulièrement ensemble. Le groupe prend alors le nom de Ronnie and the Relatives et se compose de Ronnie, de sa sœur Estelle et de leur cousine Nedra Tally. À l'origine, elles ne se produisaient qu'à l'occasion de fêtes privées, des bar mitzvahs et autres, mais elles ont rapidement attiré l'attention de Stu Phillips de chez Col Pix Records, un label appartenant au studio de cinéma Columbia Pictures. Col Pix, Columbia Pictures. Le premier single de Ronnie and the Relatives n'est pas un succès, I Want a Boy, qui est sorti en août 61 et ne s'est pas classé. Pas plus que le second, I'm gonna quit while I'm ahead. Mais ces disques ont apparemment été vendus, et au moins à une personne, car lorsque Ronnie a rencontré le président Clinton en 1997, il lui a demandé de signer un disque, et plus précisément, de signer un album de ses premiers enregistrements pour Col Pix. Bien que les filles n'aient pas eu de succès commercial, elles ont réussi à obtenir accidentellement un concert régulier dans une boîte de nuit, dans une des boîtes de nuit les plus importantes de New York. Elles se sont rendues au Peppermint Lounge au moment de l'engouement pour le twist, au moment où c'était à son apogée. Et comme elles étaient mineures, elles se sont particulièrement bien habillées afin de paraître plus adultes et de pouvoir rentrer. Leur ruse a fonctionné mieux qu'elles ne le pensaient. Comme elles étaient toutes habillées de la même façon, le directeur du club a supposé qu'il s'agissait des danseuses qu'il avait réservées et qui ne s'étaient toujours pas présentées. Il est sorti et leur a dit de monter sur scène vite fait et de commencer à danser. Bien entendu, elles ont fait ce qu'on leur demandait et ont commencé à danser au son du twist de Joey D and the Starlighters. Well, they got a new dance and it goes like this. Yeah, the name of the dance is the Peppermint Twist. Well, you like this. Peppermint twist, round and round, up and down, round and round, up and down, round and round and up and down and one, two, three.
45th Street. Where the peppermint twists me. And you learn to do this, the peppermint twist. It's alright all night. It's alright. It's okay all day. It's okay. And you learn to do this, the peppermint
twist. La danse des filles s'est bien passée. Et le groupe a commencé à jouer What I Say, une des chansons préférées de Ronnie à l'époque, et une des chansons que le groupe faisait dans son coin. Ronnie a dansé jusqu'à ce que David Brigati, qui chantait la chanson, a commencé à danser près d'elle. Il lui a tendu le micro en guise de plaisanterie, et du coup elle l'a attrapé et s'est mise à chanter aussi. Elles ont donc obtenu une place régulière au Peppermint Lodge, dansant derrière les Stylighters pendant tout leur spectacle et se joignant à eux au chant pour quelques chansons. Inspirée par les Bobettes et les Marvelettes, la mère de Ronnie et d'Estelle suggère de changer le nom du groupe. Elle suggère The Rondettes et elles abandonnent le D pour devenir les Ronettes. Les singles qu'elles ont sortis chez Cold Peaks sous ce nouveau nom n'ont pas fait mieux que les autres et elles ont joué un rôle assez important au Peppermint Lounge puisque les propriétaires du lounge ont ouvert une deuxième salle en Floride et elles ont invité les filles à s'y rendre pour démarrer la salle. Ce voyage en Floride leur a permis de vivre deux expériences très différentes. Tout d'abord, elles ont été confrontées pour la première fois à la ségrégation, qu'elles n'ont pas du tout appréciée, surtout lorsque, en tant que femmes métisses à la peau claire, elles ont été considérées comme des femmes blanches, bronzées, et servies dans des restaurants alors qu'on refusait de servir leur mère, dont la peau était plus foncée. Mais la seconde a été beaucoup plus positive. Ils ont rencontré Murray the Kay, qui, depuis qu'Alan Freed avait été chassé de son poste suite au scandale des Payola, était devenu le DJ le plus populaire de New York. Murray était en Floride pour des vacances et a été suffisamment impressionné par les gamines dansant au bord de la piscine pour leur dire que si elles se trouvaient un jour à New York et voulaient participer à l'un de ses spectacles réguliers au Fox Theater de Brooklyn, elles devraient le lui faire savoir. Elles lui ont répondu qu'elles venaient de New York et qu'elles vivaient à New York et qu'elles allaient tout le temps à ses spectacles. Bien sûr qu'elles voulaient participer. Elles devinrent donc des artistes régulières au Brooklyn Fox, où elles dansaient entre les autres numéros plus importants, faisant les chœurs, interprétant elles-mêmes une ou deux chansons et participant à des sketchs comiques avec Murray. C'est également lors de ces spectacles qu'elles ont développé le look qui allait les rendre célèbres. D'énormes volumes de cheveux au-dessus de la tête, des tonnes de mascara et des jupes serrées et fendues pour montrer leurs jambes. Ce style s'inspirait de la mode de la rue plutôt que de ce que portaient les autres groupes de filles. Et cela les a rendues incroyablement populaires auprès du public de la Fox. Mais les Ronettes, même sous leur nouveau nom, et même avec le soutien du DJ le plus en vue de New York, ne vendent toujours pas de disques. Elles savaient qu'elles étaient bonnes, et les réactions à leur performance sur scène le prouvaient. Elles ont donc décidé que le problème venait probablement de Cold Peaks. C'est ainsi qu'en 1963, elles ont pris une résolution pour la nouvelle année. Elles allaient demander à Phil Spector de les produire. À cette époque, Spector est de plus en plus connu dans l'industrie musicale en tant que producteur de hits. Il produisait des succès pour les Crystals, les Blossoms, et il produisait également des succès pour des groupes de studio comme Bob B. Sox and the Blue Jeans, qu'il a fait entrer dans le top 10 avec une reprise de la vieille chanson de Disney, Zippity-Doo-Dah.
Wonderful day.
en plus des disques qu'il produisait sur Phyllis, il travaillait également en tant que producteur indépendant pour des gens comme Connie Francis, dont il a produit le tube Second Hand Love, qui s'est classé dans le top 10. Les Ronettes étaient donc convaincus qu'ils pouvaient faire d'elles les stars qu'elles savaient avoir le potentiel de devenir. Le groupe n'avait aucune idée de la façon de contacter Spector. Elles ont alors essayé la voie directe. Estelle a appelé les renseignements téléphoniques, a obtenu le numéro de Phil's Records et a appelé et demandé à être mise en contact avec Spector. Elle est aussi étonnée que n'importe qui d'autre lorsqu'il accepte de prendre le téléphone. Et il s'avère qu'il a vu le groupe régulièrement au Brooklyn Fox et qu'il est intéressé pour travailler avec elle. Lors de leur audition pour Spector, le groupe a d'abord interprété une version en harmonie serrée de « When the Red Red Robins Goes Bob Bobbin » que leur professeur de chant leur avait apprise. Spector leur a dit qu'il veut entendre ce qu'ils font lorsqu'ils chantent pour eux-mêmes et non pour un professeur. Et Ronnie se lance dans « Why do fools fall in love ?» Il ne lui a fallu que la deuxième ligne de la chanson pour que Spector lui crie d'arrêter. « C'est exactement la voix que je cherchais. » Les premiers enregistrements des Ronettes pour Spector n'ont pas du tout été publiés par les Ronettes. Comme d'habitude, il leur a fait enregistrer une version d'une chanson écrite par Jeff Barry et Ellie Greenwich, « Why don't they let us fall in love ?» mais ne l'a pas publiée à l'époque. Elle est sortie plus tard sous le nom de Veronica, le nom sous lequel il a sorti les disques solo de Ronnie.
Don't they believe it?
Mais à l'époque, lorsque Ronnie lui demande quand le disque allait sortir, Spector a répondu « jamais ». Il lui a expliqué que c'était un bon disque, d'accord, mais qu'il n'était pas numéro 1 et qu'il travaillait toujours sur le disque numéro 1. Leurs quelques enregistrements suivants étaient des reprises de tubes de danse de l'époque comme « The Twist », de Wawa Tussie, l'une des rares fois où l'une des autres Ronettes a pris le lead plutôt que Ronnie, c'était Nedra, la voix de tête. Mais ces titres ainsi que deux autres ont été publiés en tant que titre d'un album des Crystals, crédité aux Crystals plutôt qu'aux Ronettes. La chanson qui est devenue le premier succès du groupe, Be My Baby, a été écrite en grande partie par Jeff Barry et Ellie Greenwich, l'une des nombreuses équipes d'auteurs-compositeurs mari et femme qui s'étaient développées au Brill Building. Barry a commencé par être un interprète qui écrivait occasionnellement, publiant des disques comme It's Called Rock and Roll.
A lot of people call this rock and roll swings. This is though with the, let's see, with the left hand, yeah. And the right hand fits in with something like this here. Here we go now. That is an enchanting, nothing is. With this type of beat, you see.
Mais alors que sa carrière d'interprète n'allait nulle part, il avait commencé à connaître un certain succès en tant qu'auteur-compositeur, écrivant notamment Teenage Sonata pour Sam Cooke.
Hold me while I sing to you my teenage sonata of my love, eternally true. It's written and filled with devotion from deep in my heart, and with my teenage sonata comes a prayer that we'll never part.
Il a également écrit Tell Laura I Love Her, qui a été enregistré par plusieurs personnes, mais dont le plus grand succès a été le numéro 1 américain de Ray Peterson.
Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. $1,000 prize, it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there.
Ellie Greenwich, de son côté, avait également débuté comme interprète en enregistrant Silly Isn't It sous le nom de Lee Guy.
Silly isn't it to love a guy I should never love? I am dreaming of, to love a guy like you, just like you. Silly, isn't it, to long for lips mine will never press, to long for arms and their warm caress, to want a guy like you.
Elle était devenue l'une des plus importantes chanteuses de démos de New York et avait également commencé à écrire des chansons. Elle a d'abord collaboré avec Doc Pomus, écrivant des chansons comme This Is It, qui avait été un flop pour Jay and the Americans.
Ah, hum.
Ensuite, était engagée par Trio Music, la société de Liber & Stoller, où elle avait largement collaboré avec un autre auteur nommé Tony Powers. Trio Music avait un droit de préemption sur tout ce que les deux écrivaient, et si Liber & Stoller ne l'aimait pas, ils pouvaient emmener leurs chansons ailleurs. Greenwich et Powers ont connu leur plus grand succès avec des chansons que Liber & Stoller avait rejetées et qu'ils ont vendues à Aaron Schroeder. Ils avaient également entamé une collaboration avec Phil Spector, bien que la première rencontre avec Spector et Greenwich ne se soit pas vraiment bien déroulée. Il était entré dans son bureau pour l'entendre jouer une chanson qui, selon elle, conviendrait mieux aux Paris Sisters. Il n'avait cessé de sortir du bureau et de se regarder dans un miroir et de se pomponner plutôt que d'écouter sa chanson. Elle avait fini par lui dire « Écoute-moi, petit con, t'es venu pour écouter ou pour te regarder ou pour écouter mes chansons ?» Et du coup, elle n'avait pas conclu la vente. Plus tard, Spector s'était intéressé à une chanson qu'elle avait vendue à Schroeder et il avait pris rendez-vous avec elle pour lui proposer d'écrire une chanson avec lui. Lors de ce deuxième rendez-vous, Spector ne se rend même pas compte qu'il s'agit d'une personne sur laquelle il a déjà fait une mauvaise impression et il arrive avec 4 heures de retard. Bon, malgré cela, Greenwich et Powers écrivent plusieurs chansons pour Spector, qui fut également crédité comme auteur-compositeur et qui devinrent de grands succès dans les versions qu'il produisit. Today I met the boy I'm gonna marry, a single de Darlin' Love. Why Do Lovers Break Each Other's Heart sous le nom de Bob B. Sox and the Blue Jeans, mais avec également Darlene Love au chant. Je dis que Spector a également été crédité en tant qu'auteur-compositeur sur ses disques parce qu'il y a un débat dans la mesure où il a contribué aux chansons sur lesquelles il est crédité. Certains de ses co-auteurs ont déclaré qu'il ne changeait souvent qu'un mot ou une phrase et qu'il se faisait créditer dans une chanson déjà achevée, tandis que d'autres ont déclaré qu'il contribuait raisonnablement à l'écriture, bien qu'il n'ait jamais été l'auteur principal. En fait, il n'a jamais été auteur principal. Par exemple, Barry Mann a déclaré que Spector était à l'origine de la section centrale de You've Lost That Loving Feeling, et j'ai tendance à croire que la contribution de Spector à l'écriture des chansons sur lesquelles il est co-crédité a toujours été extrêmement minime. Sur l'ensemble de sa carrière, le nombre de chansons qu'il a écrites seul semble être à un chiffre, alors que tous les autres auteurs avec lesquels il a travaillé, eux, ont écrit des dizaines de succès seuls, sans aucune contribution de qui que ce soit d'autre. C'est pourquoi, lorsque je parle de disques qu'il a produits, j'ai tendance à utiliser des expressions telles que une chanson que Goffin et King co-créditaient à Phil Spector, plutôt qu'une chanson de Goffin, King et Spector. Mais je ne peux pas affirmer que Spector n'a apporté aucune contribution. Et alors que Greenwich et Powers formaient une équipe, on va dire légèrement fructueuse, leur partenariat prit enfin lorsque Greenwich rencontra Jeff Barry lors d'un dîner familial de Thanksgiving. L'oncle de Greenwich était le cousin de Barry. Comme Greenwich l'a dit plus tard, lorsqu'ils ont commencé à parler de musique et qu'ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils avaient en commun, j'ai fait « Ouh !» et il a fait « Hmm !» et sa femme a dit « Hmm, je crois que j'aime ça aussi !» Bientôt, leur partenariat précédent, on va dire tant romantiques que musicaux, ont pris fin, et Jeff Barry et Ellie Greenwich sont devenus le troisième des grandes équipes d'auteurs-compositeurs mari et femme du Brill Building. Alors que Goffin et King avaient une écriture sophistiquée avec un soupçon de subversion sexuelle et le mélange de la douleur et du plaisir, et que Mann et Vail essayaient d'incorporer des commentaires sociaux dans leurs chansons, Barry et Greenwich étaient des idiots heureux. Ils écrivaient des chansons comme Hanky Panky, Dadu Run Run, Do Wa Di 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 Di. Et cela fonctionne très bien pour eux, à tel point qu'après leur séparation, des années plus tard, Barry reprend cette formule avec des chansons telles que Sugar Sugar, Jingle Jangle, Bang Shang-a-Lang. Le style de Barry et Greenwich consistait à insérer autant d'accroches et d'onomatopées que possible et à ajouter une ou deux blagues, à garder les paroles simples et à terminer en deux minutes. Très peu de leurs chansons étaient des chefs-d'œuvre d'écriture, mais elles étaient toutes des modèles absolument parfaits pour des chefs-d'œuvre de production. On a l'impression que je les accable, mais ce n'est pas le cas. Si vous écrivez un chef-d'œuvre déchirant sur la condition humaine, les gens pardonneront quelques erreurs d'exécution. Mais si vous écrivez « My baby does the hanky-panky », il n'y a pas vraiment de marge d'erreur possible, vous devez avoir une prod au top, sinon vous vous plantez. Barry et Greenwich sont suffisamment bons dans ce domaine pour devenir les auteurs privilégiés de Spector pendant les deux années qui suivent. Ils enregistrent des chansons de la plupart des équipes du Brill Building, mais quand on pense aux disques classiques produits par Spector, il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse de chansons de Barry et Greenwich. Sur les 27 singles de Feels sortis après que Barry et Greenwich ont commencé à écrire ensemble, 14 sont crédités à Barry Greenwich Spector, et il y a une série de 11 singles sortis sur le label entre fin 62 et 64 qui sont crédités soit comme Greenwich Power Spector, soit comme Barry Greenwich Spector. C'est donc naturellement vers Barry et Greenwich que Spector s'est tourné pour écrire le premier grand succès des Ronettes. Et il a laissé Ronnie écouter la session d'écriture. À cette époque, Spector s'était engagé dans une relation amoureuse avec Ronnie. Il l'avait invité dans son appartement à s'asseoir dans la pièce voisine pour les écouter travailler sur la chanson. D'habitude, il se retrouvait plutôt à l'hôtel que chez Spector. Spector ne lui avait pas dit qu'il était marié, et lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il y avait des vêtements féminins, il a prétendu que c'était des choses que sa sœur avait oubliées. Ça aurait probablement dû être un red flag et un signe avant-coureur, mais bon. En supposant que Spector ait contribué à l'écriture, je pense qu'il est facile de savoir ce qu'il a apporté à Be My Baby. Si vous écoutez le disque de Connie Francis que j'ai cité plus haut, sur lequel Spector est également co-auteur, la ligne mélodique de la phrase « That you don't feel the same » qui mène au refrain. Eh bien, cette ligne mélodique est identique à la ligne mélodique du refrain de « Be My Baby ». La transition entre le couplet et le refrain est donc probablement son œuvre. Après avoir fait répéter Ronnie pendant plusieurs semaines à New York, Spector l'a emmené à Los Angeles pour enregistrer le disque dans les Gold Star Studios, où elle a passé 3 jours à enregistrer les voix principales. Les chœurs ne sont pas assurés par les autres Ronettes, mais plutôt par les Blossoms, avec quelques chanteurs supplémentaires qui étaient de passage, notamment l'assistant de Spector de l'époque, Sonny Bono, et sa nouvelle petite amie, une gamine appelée Cher. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce ne sont pas les parties chantées, mais bien que la chanson soit parfaite pour Ronnie. Et putain, l'intro de batterie par Al Blaine. Cette intro était d'une simplicité biblique. Blaine a toujours été un joueur minimaliste, quelqu'un qui jouait au service de la chanson plutôt que d'en faire des tonnes avec des fills compliqués pour en mettre plein la vue. Mais cette partie simple, combinée au son hyper puissant de l'ingénieur Larry Levine a obtenu et a suffi à en faire l'une des intros les plus mémorables de l'histoire du rock. Brian Wilson, des Beach Boys, raconte encore aujourd'hui qu'il a dû s'arrêter sur le bas-côté de la route quand il a entendu la chanson pour la première fois à la radio et qu'il n'a cessé de l'écouter le disque pendant des heures. puisqu'on est en train de parler de Al Blaine et de Brian Wilson, donc on parle forcément du Wrecking Crew, il faut qu'on parle un peu de Carole Kaye. De nombreuses sources attribuent à Carole Kaye le rôle de bassiste sur ce morceau. Je vais donc dire une fois pour toutes quelque chose qui doit être considéré comme acquis à chaque fois que je parle de disques produits à Los Angeles dans les années 60. Carole Kaye n'est pas seulement une source peu fiable pour ce qui est des disques sur lesquels elle a joué, c'est aussi une source totalement malhonnête. Pour ceux qui l'ignorent, Madame Kaye était l'une des plus grandes bassistes des années 60 et aussi l'une des meilleures guitaristes de studio. Ça, c'est une réalité. Elle a joué sur des centaines de disques dans les années 60, dont de très nombreux classiques des Beach Boys, de Spector, de Frank Zappa et d'autres. Et elle était aussi la seule femme à travailler régulièrement à Los Angeles sur un instrument de musique rock. C'est pour cela qu'elle mérite la gloire et qu'il faut la reconnaître. C'est une grande artiste. Malheureusement, elle n'a jamais apprécié de n'être créditée que pour les disques sur lesquels elle a réellement joué. Et elle insiste souvent sur le fait qu'elle a joué sur beaucoup, 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 beaucoup d'autres disques. Alors, si vous jouez deux ou trois sessions par jour et que vous jouez sur un tas de disques des Beach Boys, il est facile de ne pas se souvenir d'avoir joué sur Surfing USA, alors que vous avez peut-être joué sur un disque au son similaire. Ça, je comprends. Il y a aussi des choses comme le fait qu'elle affirme d'avoir joué sur Good Vibration alors qu'il y a eu plusieurs sessions pour ce morceau et qu'il se trouve que les prises finalement utilisées n'étaient pas celles où elle jouait la basse, mais qu'elle n'avait aucun moyen de le savoir. Tout ça, c'est tout à fait pardonnable. Mais Madame Kaye prétend également, avec une régularité de métronome et sans aucune preuve de son côté, et pour appuyer ses dires, et avec beaucoup de preuves qui n'appuient pas ses dires et qui disent le contraire, elle prétend donc régulièrement avoir été responsable de l'interprétation de la quasi-totalité des enregistrements de James Jamerson, le principal bassiste de la Motown, affirmant que les bandes auraient été secrètement expédiées de Detroit à Los Angeles, ce qui a été démenti par toutes les personnes travaillant à la Motown et qui peut être très facilement réfuté, simplement en écoutant les bandes. Elle prétend également avoir joué de la basse sur I'm a Believer, des Monkees, un morceau enregistré à New York par des musiciens new-yorkais, et à chaque fois que quelqu'un lui fait remarquer ses faussetés, au lieu de dire « ouais, j'ai peut-être fait une erreur », elle l'accable d'injures et dans certains cas, elle diffame les personnes sur son propre site web. Ainsi, Carole Kaye n'a pas joué sur ce disque, et nous le savons parce que nous avons les feuilles de session de l'AFM qui montrent que le bassiste sur le morceau était Ray Paulman et Jimmy Bond. Je mettrai un lien vers le PDF pour ceux que ça intéresse, vers cette feuille de notes de la session. Ainsi, à l'avenir, lorsque je mentionnerai que quelqu'un d'autre que Carole Kaye a joué sur la chanson et que Wikipédia ou n'importe quel autre site dira le contraire, eh bien, gardez ça à l'esprit. Deux personnes ont effectivement joué sur le disque, Bill Pittman et Tony Tedesco du Wrecking Crew, et c'est la raison pour laquelle la face B, un instrumental, s'appelle Tedesco and Pittman. Spector était suffisamment maniaque du contrôle pour ne pas vouloir que les DJ jouent la mauvaise face de ses singles, et il a donc mis en place des sessions instrumentales de jam par les musiciens de studio avec l'écriture des chansons créditées à lui, plutôt qu'à eux, sur la face B. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'aime bien Tedesco and Pittman et j'ai toujours eu un faible pour le vibraphone. My Baby a été un incroyable succès. Il a été numéro 1 dans le classement Cashbox, mais seulement numéro 2 dans le classement Billboard. Et il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Le groupe fut invité à participer à la tournée Caravan of the Stars de Dick Clark, mais Spector voulait que Ronnie soit en Californie pour enregistrer la suite. La cousine des filles, Elaine, l'a donc remplacée pendant les deux premières semaines de la tournée, tandis que Ronnie enregistrait une autre chanson de Barry Greenwich et Spector, Baby I Love You. Ronnie ne s'en est pas rendu compte à l'époque, mais Spector essayait déjà de l'isoler des autres membres du groupe et de sa famille et de son entourage en général. Au début, cela lui a semblé être une façon sensée de résoudre le problème et elle a rejoint la tournée après l'enregistrement du disque. Peu après, le groupe s'est rendu au Royaume-Uni pour une brève tournée au début 64, au cours de laquelle elle s'est liée d'amitié avec les Beatles. Ronnie a eu un bref flirt très chaste avec John Lennon et Estelle quelque chose d'un peu plus chaud avec George Harrison. Ils ont également fait la connaissance des Rolling Stones qui assuraient la première partie de la tournée. Au moins une fois, Ronnie s'est disputé avec Andrew Long Haldham car Spector avait envoyé un télégramme interdisant aux Rolling Stones de passer du temps avec les Ronettes. Une fois que Ronnie a fait remarquer qu'elles étaient là et que Spector n'y était pas, les deux groupes sont devenus très amis, même plus qu'amis si l'on en croit l'autobiographie de Keith Richards. De retour aux États-Unis, il continue à avoir des succès jusqu'en 1964. Rien n'est aussi important que Be My Baby, mais ils ont trois autres succès dans le top 40 cette année-là, avec deux disques finalement assez médiocres, The Best Part of Breaking Up et Do I Love You, coécrit par l'équipe de Peter Andreoli et Vinnie Poncia, puis un retour à la forme avec ce magnifique Walking in the Rain de Barry Mann et Cynthia Vale. Spector devient de plus en plus erratique dans sa vie personnelle et de plus en plus maniaque du contrôle. Je n'entrerai pas dans les détails ici, vous verrez tout ça sur le web et de toute façon, nous recroiserons Phil Spector au cours de l'année à venir. Mais il a enregistré plusieurs grands disques avec les Ronettes qu'il a refusé de sortir sous prétexte qu'il n'était pas tout à fait correct. Ronnie a compris plus tard qu'il essayait probablement de saboter sa carrière à elle pour l'avoir pour lui tout seul, bien qu'à l'époque, elle ne l'ait pas compris. Aucun des deux singles qu'ils ont sortis en 65 n'a atteint le top 50 et le seul single qu'ils ont sorti en 66, un retour aux chansons de Barry et Greenwich, n'a atteint le top 100 que pendant une semaine. Toujours en 1966, les Ronettes sont invités par les Beatles à assurer la première partie de leur dernière tournée. Mais une fois de plus, Spector insiste sur le fait que Ronnie ne peut pas y aller, car elle doit être en studio, et Hélène la remplace à nouveau, à la grande déception des Beatles. Rien des sessions de studio n'a été publié. Le groupe se sépare en 1967 et l'année suivante, Ronnie épouse Phil Spector, qui devient de plus en plus autoritaire et de plus en plus violent. Je n'entrerai pas dans les détails de la façon dont il la traitait. Vous pouvez lire ça dans son autobiographie et c'est vraiment pénible à lire. Mais il suffit de dire que je n'ai pas du tout été surpris lorsqu'il a assassiné une femme en 2003 pour comprendre. Vous aurez probablement une idée de ses comportements lorsque je parlerai de lui dans d'autres épisodes. Mais ce que Ronnie a subi pendant des années où ils étaient ensemble est quelque chose que personne ne devrait avoir à vivre. Lorsqu'elle a réussi à le quitter en juin 72, elle n'avait sorti qu'un seul titre depuis des années, une chanson de George Harrison, que George Harrison avait écrite pour elle, intitulée « Try Some, Buy Some », que Spector avait enregistré avec elle sur l'insistance de Harrison à une époque où Spector travaillait avec plusieurs ex-Beatles et essayait de reconstruire sa propre carrière sur le dos des Beatles.
Way back in time, someone said try some, I tried some.
Ni Ronnie, ni Spector n'étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de ce titre, qui fut un échec commercial, même si John Lennon déclara plus tard que ça lui avait inspiré son « Happy Christmas, War is Over ». Ronnie finit par échapper aux abus de Spector. Elle fuit la maison pieds nus, car Spector lui a volé toutes ses chaussures pour qu'elle ne puisse pas partir, et commence à se construire une nouvelle vie, bien qu'elle doive lutter contre son alcoolisme pendant de nombreuses années. Elle n'a rien obtenu dans le cadre de leur divorce, Spector ayant menacé d'engager un tueur à gages pour la tuer si elle essayait d'obtenir quoi que ce soit de lui, et elle a gagné sa vie en faisant des tournées nostalgie avec diverses nouvelles formations des Ronettes, les autres ayant abandonné leur carrière musicale. Et bien qu'elle n'ait jamais eu d'autres succès, elle a quand même enregistré quelques disques. Sa carrière solo a démarré grâce à une rencontre fortuite à New York. Son vieil ami John Lennon la rencontre dans la rue, l'appelle pour discuter et lui présente l'ami avec lequel il était à ce moment-là, Jimmy Iovine, qui produisait un album pour Southside Johnny and the Asbury Jukes. Bruce Springsteen avait écrit une chanson pour ce groupe, ses copains, et Iovine pensait qu'elle pourrait faire l'objet d'un duo avec Ronnie. Et il l'a invitée au studio ce jour-là et elle a enregistré la chanson avec eux au pied levé.
Mm-hmm.
Cette chanson est devenue l'une des plus populaires de l'album et lorsque les Asbury Jukes ont fait une tournée en première partie de Bruce Springsteen et du E Street Band, ils ont emmené Ronnie avec eux pour chanter cette chanson et interpréter quelques autres de ses propres succès. Cela a conduit le E Street Band à soutenir Ronnie sur un single, une version de Say Goodbye to Hollywood de Billy Joel, une chanson que Joel avait écrite en pensant à elle. Malheureusement, ce fut un flop, comme d'ailleurs toutes ses tentatives ultérieures de retour. Bien qu'elle ait travaillé avec d'excellents musiciens au fil des ans, mais elle a pu continuer à mener une carrière d'artiste, même si elle n'est jamais revenue à la célébrité. Et elle n'a jamais gagné beaucoup d'argent grâce à ses succès. Elle a cependant participé à un autre succès classé dans le top 10 en chantant sur « Take Me Home Tonight » de Eddie Money. Phil Spector, lui, a continué à gagner des sommes coquettes d'argent de son ex-femme pendant très longtemps après leur divorce. En 1998, lorsque les Ronettes ont finalement intenté un procès à Spector pour des redevances impayées, elles ont fini par gagner à elles deux un montant de 14 482,30 $ en redevances pour tous leurs disques à succès, le montant provenant d'un seul paiement de redevances de 1964. Au tribunal, Spector a soutenu qu'il ne leur devait rien du tout, même qu'elle lui avait coûté de l'argent, car le coût d'enregistrement de leur single signifiait qu'il n'avait jamais gagné d'argent et que, en fait, ça lui en avait juste coûté. Finalement, après une série d'appels, les membres du groupe ont chacune reçu $500,000 en 2002, ce qui est évidemment beaucoup d'argent, mais finalement une petite fraction seulement de ce qu'elles auraient dû réellement gagner. Spector, qui siégeait au conseil d'administration du Rock'n'Roll Hall of Fame, a empêché les Ronettes d'être intronisées, par dépit envers son ex, jusqu'à ce qu'ils soient emprisonnés, date à laquelle elles ont finalement été reconnues en 2007. Ronnie a continué à se produire et semble avoir eu une vie heureuse jusqu'à sa mort en 2022. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'Estelle, qui a souffert d'anorexie et de schizophrénie. Elle a passé une période en tant que SDF et est décédée en 2009. Nedra est devenue chrétienne peu après la séparation du groupe et a enregistré quelques albums de musique chrétienne sans succès dans les années 70 avant de travailler dans l'immobilier. En septembre 2020, il a été annoncé qu'un film allait être réalisé sur la vie de Ronnie Spector. Il est bon de savoir qu'il y aura quelque chose qui racontera son histoire à elle de son point de vue, plutôt que comme un accessoire de second plan dans l'histoire de son connard de mari, abusif et surcoté. Note de bas de page. Be My Babe, How I Survived Mascara, Miniskirt and Madness de Ronnie Spector est l'autobiographie de Ronnie et ça a été la source principale. Toujours de la magie dans l'air, The Bomb and Brilliance of the Brill Building par Ken Emerson est un bon aperçu de la scène du Brill Building et a fourni des informations sur Barry et Greenwich. Les informations sur le Wrecking Crew proviennent en grande partie de The Wrecking Crew de Ken Hartman. Il existe de nombreuses compilations de quelques-uns des succès produits par Spector, mais je recommande de se procurer Back to Mono, un aperçu de sa carrière en 4 CD contenant tous les principaux singles produits par Fields. Si vous voulez quelque chose qui ne couvre que Ronnie Spector et les Ronettes, The Very Best of Ronnie Spector couvre tous les succès des Ronettes et le meilleur de sa carrière solo.